courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Senescence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Calade. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Courant Porteur. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Au sommaire de notre émission, dans cette première partie, nous recevons Catherine Valin de l'association Prenons Racine. Bonjour Catherine.
Bonjour Elisabeth. Bonjour Ludovic.
Bonjour Catherine.
Merci d'être avec nous. Et donc, première partie, on va parler effectivement de cette magnifique association et de ton parcours et comment tu es arrivée là. Et sur la deuxième partie de l'émission, on a décidé de vous parler de reconversion et de statut juridique. On démarre ? C'est parti ? Allez. Catherine, du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours ?
Alors, déjà, j'ai à peu près 56 ans, un peu plus, et j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Et j'ai passé 29 ans dans une grande boîte. J'ai travaillé 29 ans pour une grande boîte d'informatique. Parallèlement, ma vie personnelle a beaucoup changé, c'est-à-dire que je me suis de plus en plus rapprochée de la nature, j'ai découvert la permaculture, le compostage direct, les arbres, etc. Et petit à petit, je sentais un peu des tiraillements entre ce que je vivais chez moi et mon travail. Et puis en 2018 est arrivé pour moi ce qu'on appellera plus tard le point de bascule, qui m'a vraiment fait me rendre compte des gros problèmes de la crise climatique. Suite à ça, beaucoup de questionnements, la rencontre avec plusieurs personnes qui étaient dans le même cas que moi au même moment. Et à partir de tout ça, on a créé Prenons Racine, on va dire. Et puis moi, j'ai continué le cheminement en passant par une reconversion justement pour devenir technicien conseil en agroforesterie. Donc ça, c'était en 2021. Donc j'ai fait une reconversion en 2 ans avec un BTS agricole pour bien connaître le métier des agriculteurs, des formations en agroforesterie. Et actuellement, donc, je suis technicien conseil en agroforesterie pour l'association Prenons Racine. Voilà, en gros.
Et merci. Et du coup, effectivement, tu disais que hors émission, quand on préparait, que tu avais eu plusieurs fois des messages sur la situation climatique, mais que ça n'avait pas forcément fait tilt tout de suite et qu'il y a eu un moment où il y a ce fameux point de bascule. Est-ce que tu veux nous raconter ?
Oui, c'est ça. Donc moi, le point de bascule, ça a été... j'étais en direct branché sur France Inter quand Nicolas Hulot a démissionné en 2018. Et ce qu'il m'a dit, en fait, a réussi à me réveiller, on va dire. Enfin, en tout cas, à me faire me poser les questions que je n'avais pas encore réussi à me poser avant. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y a des ministres de l'écologie, il y a des programmes, et pourtant, est-ce que ça avance ? D'après ce qu'il disait, ça n'avançait pas. Et puis, il a dit la petite phrase qui, vraiment, moi, m'a débloquée, c'est « je sais que je pourrais repartir pour un an ». Il y aura des avancées, mais ça ne changera pas l'issue. Et c'est vrai que moi, je ne m'étais jamais posé la question, le changement climatique, jusqu'où ça peut aller, quoi ? C'est quoi vraiment le problème ? Est-ce que je sais même expliquer le problème ? Et jusqu'où ça peut aller ? Je ne m'étais jamais posé ça comme ça. Et vraiment, suite à ça, j'ai acheté des bouquins sur la question, parce que moi, je passe toujours par les bouquins, j'ai lu plein de trucs, et je me suis rendu compte que tout ça était beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé juste avant. Donc voilà, ça a été vraiment mon point de bascule. Et puis voilà, donc suite à ça, un grand cheminement et une reconversion au bout, quoi.
Vous ne le voyez peut-être pas, enfin forcément pas, puisqu'on est à la radio, mais à côté de Catherine, il y a un certain nombre de livres qui sont avec des marque-pages diverses et variées, de toutes les couleurs. Il y en a, je ne sais pas, on dirait une cinquantaine par livre. Donc j'imagine effectivement que ton passage, l'apprentissage passe par
oui,
ce savoir.
Moi, mon questionnement passe souvent par des livres, donc je lis plein de trucs sur le sujet et ça me permet d'évoluer, on va dire. Et puis aussi le questionnement à plusieurs. C'est vrai qu'avant Prenons Racine, on s'est rencontrés à plusieurs, on s'est posé des questions à plusieurs et vraiment ça nous a fait tous évoluer en même temps et passer à l'action en même temps, on va dire.
On va revenir sur cette histoire de la constitution de Prenons Racine. Juste avant, on aime bien poser une question à propos du rêve à l'origine de ton engagement ou de ton action. Est-ce que toi, il y avait un rêve ?
Je ne saurais pas dire. Je me suis rendu compte petit à petit que les arbres, ça avait toujours été très présent dans ma vie, etc. Et mon rêve, ça a surtout été de travailler dans ce milieu-là, travailler avec les arbres, mais aussi d'arriver justement à réveiller les gens, à les faire passer à l'action en douceur, on va dire, c'est-à-dire à les mettre sur le chemin d'un changement sans la grosse chute que moi j'ai eue en découvrant les problèmes climatiques, quoi. Il faut s'avancer petit à petit vers la question pour se rendre compte qu'il faut changer, quoi. Donc mon rêve, c'est ça, c'est d'accompagner les gens par ce moyen-là à un changement dans leur vie et dans leur façon d'agir.
Et d'aborder la question, finalement.
Et d'aborder la question,
exactement. Avec cette solution que toi, tu as prise de l'agroforesterie. Alors justement, Prenons Racine, c'est un joli nom.
Oui, alors il est vraiment né dans la suite de notre fameux point de bascule de 2018, puisqu'on a été plusieurs à faire pas mal de marches pour le climat en se disant oui, il y a un problème, on va aller le dire. Et puis voilà, les choses vont se résoudre, quoi. Quand on n'est pas militant, on a l'impression qu'il suffit de dire les choses pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc une marche pour le climat, deux marches pour le climat, trois marches. Et puis on se rend compte que
il se passe rien.
Il se passe rien, voire même la presse n'en parle même plus. Donc et suite à ça, beaucoup de questionnements et puis se rendre compte qu'en fait ça fait 40 ans que c'est comme ça, qu'il y a des gens qui poussent des cris d'alerte et puis que ça retombe, qu'il n'y a pas d'accroche en fait. Voilà. Et donc se dire ça suffit pas d'aller marcher pour le climat, il faut arriver à réveiller les gens, il faut arriver à les mettre en action on a fait différentes expériences. On a commencé avec un mouvement qui essayait d'interdire les pesticides et puis on s'est rendu compte que c'était très bloc contre bloc, quoi. C'est-à-dire c'est votre faute à vous, non c'est votre faute à vous, etc. Et un jour, la personne qui est devenue notre présidente, Angélique, nous a dit, mais ce qui est vraiment terrible, c'est qu'en fait, on passe notre temps à se castagner, en fait, au lieu d'avancer sur des points communs, quoi. Donc, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui fasse avancer des gens différents sur un point commun qu'ils ont entre eux. Et suite à ça, on a fait une plantation participative dans le Pilat, qui était organisée par l'Office des chasseurs, avec donc des agriculteurs, des chasseurs, des étudiants, etc. On s'est rendu compte que c'était très sympa, que tout le monde travaillait ensemble, on a tous mangé ensemble, et on a tous discuté ensemble, quoi. Et ça, c'était... Moi, il y a un jeune chasseur qui m'a dit, moi, je sais pourquoi je vais implanter ces arbres, mais vous, pourquoi vous êtes là, quoi. Et on a pu parler. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, planter ensemble, faire une action ensemble qui nous rassemblait, ça permettait de faire se rencontrer des gens très différents qui, peut-être dans la vie, ne se seraient jamais parlé et là, qui sont ouverts à la discussion et à l'écoute, quoi. Donc, on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire. C'est ce genre d'action qu'on veut faire, quoi. C'est une action qui rassemble, qui fait qu'on fait quelque chose de concret
et qu'en plus,
les gens sont embarqués dans quelque chose de commun.
Ouais, c'est agir pour et agir ensemble dans l'expérience que l'on vit. Et des choses qui sont assez ressourçantes aussi.
Voilà, c'est ça. Nous, on considère ça comme de la sensibilisation par l'action, c'est-à-dire on fait pas de discours, en fait, on va faire quelque chose et c'est ça qui va faire évoluer les mentalités, quoi.
Ok. Et tu te souviens combien vous étiez au départ ?
Au départ, on était une petite poignée. Notre première plantation a eu lieu l'hiver 2020-2021. En gros, on était les 4-5 fondateurs et nos copains, quoi, on va dire. Et on a planté quand même 300 arbres, c'était déjà pas mal, avec une mairie qui nous a fait confiance. Et puis, d'année en année, ben voilà, on a grossi, on a de bouche à oreille, on va dire. Et ben actuellement, cet hiver, on a planté dans les 6000 arbres. On était à peu près 130 adultes différents. On a planté, on plante beaucoup avec des écoles aussi.
6000 arbres.
On a planté avec trois écoles. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de plantations. Ça a embarqué beaucoup de gens et voilà, c'est super.
Et donc, vous êtes constitué en association.
Voilà, donc on est constitué en association depuis début 2020. Au départ, nous étions tous des bénévoles. Et donc, depuis juin 2024, je suis salariée pour l'instant à 3 jours par semaine dans cette association.
Et le financement, il est trouvé ?
Alors, le financement a été, pour le moment, il est encore un peu fragile. On a été aidé par Fondation. Et puis, on a des adhésions, on a un peu de mécénat. Et en fait, les plantations qu'on fait sont rémunérées dans le sens que le service qu'on fournit est un service qui est rémunéré. La plupart des plantations qu'on fait ont lieu dans l'Ain et il y a une subvention de l'Ain qui permet au demandeur d'être bien remboursé de sa plantation. Donc, ce qui permet de faire des très beaux projets en embarquant beaucoup de gens et en faisant des haies qui ont vraiment une signification, puisqu'il faut au moins 300 mètres de haies pour avoir droit à cette subvention. Donc, ça permet vraiment d'avoir des beaux projets, quoi.
Et cette subvention, elle est disponible, elle est mobilisable, qu'on soit agriculteur ou particulier.
Enfin, les conditions, c'est la longueur de la haie. mais par contre, on peut être agriculteur, on peut être une collectivité, on peut être un particulier, on peut être une entreprise.
Parfait.
Voilà, donc c'est vraiment, ça permet de faire des belles choses avec plein de gens.
Alors, j'ai lu sur votre site, déjà, je vais commencer par dire le site, c'est www.prenonsracine.com. Donc PRENONSRACINE.fr, tout attaché. J'ai lu que l'agroforesterie, c'était pour produire, amortir et protéger un sujet d'intérêt général, un projet de société. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, alors en fait, l'agroforesterie, c'est vraiment à différencier de la forêt. C'est-à-dire que c'est des arbres qu'on va planter en bord de parcelles agricoles, par exemple, mais aussi ça peut être des arbres qu'on plante dans les parcelles agricoles. Ces haies, elles ont des intérêts multiples, à la fois pour la biodiversité, puisque vraiment, c'est des corridors qui peuvent être un gîte et un couvert pour toutes sortes d'animaux, hein, de toute taille. C'est aussi des haies qui peuvent aider l'agriculteur en protégeant ses cultures du vent. Il y a de plus en plus de vent l'été, des vents chauds qui arrivent à sécher les céréales, par exemple, avant qu'elles soient mûres. Donc la haie, elle peut justement servir de brise-vent. Elle est aussi utilisée par l'agriculteur biologique pour faire, on va dire, une barrière avec son voisin qui est en conventionnel pour éviter d'avoir des phytos qui arrivent dans sa parcelle. Elle est très utile aussi pour infiltrer l'eau dans les sols, pour éviter l'érosion des sols agricoles, qui est vraiment un très gros problème. Donc ça aide à infiltrer l'eau, ça permet que l'eau atteigne plus rapidement et plus facilement les nappes phréatiques. Voilà, il y a des tas de raisons au niveau agricole de planter des haies. Et après, il y a des tas de raisons en ville aussi, hein, la fraîcheur... la verdure, enfin, il y a des tas de raisons à tout niveau, on va dire.
Ouais, super. Tu parles de planter des arbres, mais moi, dans ma connaissance, quand on parle d'agroforesterie, je pense aussi forêt-jardin. Alors, c'est peut-être pas exactement la même vocation. En tout cas, vous plantez pas que des arbres. Je crois qu'il y a 7 strates, mais est-ce que c'est vraiment ça dont on parle ? Peut-être pas.
Alors, nous, on plante plutôt principalement des haies, donc vraiment des alignements qui sont toujours des haies au moins double rang pour que, justement, la haie soit bien épaisse, qu'il y ait vraiment un couloir au milieu des arbres qui soit toujours disponible pour la faune. Et par contre, au niveau strate, tout dépend, en fait, de là où on plante la haie. Il peut y avoir des haies avec des arbres hauts, des haies qui restent basses, des haies qui soient touffues. Ça dépend vraiment du besoin. Et après, on a planté aussi quelques micro-forêts. Donc là, ce n'est pas le même principe. On couvre une surface avec des arbres. Mmh. Donc des arbres qui ont l'habitude de pousser ensemble en forêt et qui vont donc rapidement pousser et faire un espace. Voilà, faire un espace boisé.
Donc je lisais que l'agroforesterie désigne les pratiques nouvelles ou historiques associant des arbres, des cultures et ou des animaux sur une même parcelle agricole, soit en bordure, soit en plein champ. Donc c'est ce que tu viens de décrire. Et ces pratiques comprennent à la fois des systèmes agro-sylvicoles, mais aussi sylvo-pastoraux et des pré-vergers, donc des animaux pâturants sous des vergers de fruitiers.
Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a encore pas eu de demande là-dessus, mais c'est vrai qu'autrefois, la prairie, elle abritait aussi des arbres fruitiers qui servaient à l'être humain et qui apportaient de l'ombre, voire des feuilles fourragères aux animaux. Et petit à petit, ces arbres n'ont pas été renouvelés. Et donc, les pâturages, les pâturages ont beaucoup diminué. Mais ceux qui restent, souvent, ont perdu leurs arbres parce que les pommiers, les arbres fruitiers ont vieilli et n'ont pas été remplacés. C'est dommage parce que à la fois ça apporte des fruits pour les habitants et aussi de l'ombre pour les bêtes quoi. Donc on aimerait remettre aussi ce modèle en pratique.
Il y a une source justement de si vous, ça vous intéresse d'aller en savoir plus, c'est www.agroforesterie.fr. Et puis, il y a une autre source qui est intéressante sur le site de l'agriculture, donc agriculture.gouv.fr, sur un dossier agroforesterie, tout savoir sur cette pratique en faveur de l'environnement. Alors, vous retrouverez tous les liens dans la page de l'émission, comme d'habitude. Il y a également sur le site le lien vers une infographie avec les bénéfices justement de l'agroforesterie, qui est un joli support très pédagogique pour comprendre. Donc, tu en as déjà parlé, mais effectivement, peut-être les avantages de l'agroforesterie.
Les avantages, ils sont à tout niveau, on va dire, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour l'humain, puisque un des points aussi sur lesquels on sensibilise les gens, c'est que la haie peut aussi être coupée. Donc ça fait débat au départ, parce que souvent, les personnes considèrent que couper un arbre, c'est tuer un arbre, en fait. Mmh. Et la plupart des arbres champêtres repoussent, en fait, quand ils sont coupés. C'est-à-dire qu'une haie qui est gérée durablement, on peut la couper. Il faut la couper vraiment au ras du sol. Hein, ça s'appelle le recépage. Et les arbres vont redémarrer depuis la souche de l'arbre, en fait, autour de la souche, et redémarrer aussi fort que l'arbre avant, en fait. Autrefois, les haies étaient gérées comme ça. On avait tout le temps besoin de bois pour la cuisson, pour toutes sortes de besoins. En fait, c'est des besoins qu'on a oubliés parce que maintenant, on utilise beaucoup le métal, le plastique, le pétrole, le gaz pour l'énergie. Mais autrefois, les arbres, c'était une ressource de matière première et d'énergie, quoi. Et cependant, les haies n'étaient jamais détruites. En fait, on avait trop besoin des haies pour les détruire. Donc, les arbres étaient coupés au sol, recépés, et les arbres repoussaient. Donc, c'est une gestion qui se fait sur 10-15 ans, en fait, en disant telle partie de la haie, on va la couper à telle période, elle va repousser pendant 10-15 ans, et puis on...
C'est ça, c'est voilà. 10-15 ans la période de temps.
Oui, c'est vraiment des échelles de temps qui sont très longues. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se remettre en route avec la gestion durable des haies qui permet de donner en fait des plans de gestion sur les haies qui permettent à la fois d'avoir une haie durable, utile pour la biodiversité, mais qui sera utile à une période ou à une autre de son existence pour nos propres besoins, en fait.
Et je sais aussi que pour avoir du bois et aussi du bois de chauffage, il y a la coupe, la taille, du coup, là, tu parlais de coupe, mais il y a la taille des arbres en trogne,
voilà,
histoire d'avoir effectivement des branches.
La taille en trogne était très utilisée autrefois quand il y avait du bétail, parce que si on coupe au sol par recépage, ensuite, le bétail va vraiment manger toutes les jeunes branches, les jeunes feuilles, et l'arbre ne pourra pas repousser. Donc, autrefois, on coupait les arbres à hauteur, au-dessus d'une hauteur de vache, on va dire, de façon à ce que l'arbre puisse repousser ensuite, quoi. Et donc, c'est ce qui faisait les trognes. Donc, c'est un peu le même principe que le recépage, mais en hauteur. C'est-à-dire qu'on va couper l'arbre toujours au même endroit en hauteur. Pareil, tous les... Alors là, c'est plutôt
c'est tous les 4-5 ans.
Ça dépend des types d'arbres. Mmh. Et ça permet d'avoir des branches sans du tout tuer l'arbre. C'est-à-dire qu'un arbre têtard vit très longtemps. Pour certaines espèces, l'arbre vit même plus longtemps que si l'arbre n'avait pas été coupé en trogne. Parce que l'arbre qui n'est pas coupé en trogne, il va monter très haut, il aura une prise au vent. Mmh. Il peut éventuellement se faire abattre par le vent. Alors que la trogne, on va dire, est très solidement accrochée au sol. Le tronc devient très large et il devient creux. Mais c'est normal, en fait. L'intérieur de l'arbre se creuse, mais ce n'est pas du tout que l'arbre est malade. Là aussi, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. J'ai souvent entendu, ben, moi, j'ai coupé cet arbre parce qu'il était creux, mais ça n'a aucun rapport. Un arbre peut être totalement creux et totalement vivant, en fait.
Ben, les arbres en trogne, c'est ces arbres avec effectivement un tronc, et puis il y a plein de branches qui partent au même endroit.
C'est ça.
Enfin, sur le même plan, il n'y a pas une branche, puis une autre, etc.
Voilà, donc dans la région lyonnaise, c'était très utilisé pour les vers à soie, pour la soierie
exactement,
de Lyon, en fait, hein, les mûriers. Il y a des régions en France où c'était utilisé, ben, par exemple, avec des châtaigniers, des chênes, pour élever les porcs basques, par exemple. Ils étaient élevés sous des forêts qui étaient des trognes, donc on coupait régulièrement les arbres pour avoir des glands plus régulièrement. Donc c'était vraiment une pratique très, très répandue. Et actuellement, ça peut devenir utile également dans les jardins. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très beaux arbres, mais on a peur qu'un jour, ils soient trop grands puis qu'ils tombent sur la maison ou que l'entretien coûte trop cher parce qu'il faut
Ou dépasse chez le voisin.
Voilà, ou qu'il dépasse chez le voisin. Si on le coupe en trogne, on peut les couper à des hauteurs très, très basses. Hein. Ouais. Et donc, on peut avoir des très beaux arbres qu'on entretiendra soi-même sans risque pour sa maison, en fait.
Ouais, dans ma campagne, quand j'étais jeune, il y avait des mûriers blancs, effectivement, qui étaient en trogne.
Voilà, oui. Et ces arbres-là sont hyper utiles pour la biodiversité parce que du fait qu'ils soient creux, c'est vraiment des habitats pour toutes sortes d'animaux, hein, des chauves-souris, des batraciens, etc. Des animaux vont hiberner dedans.
Voilà. Alors sur votre site, effectivement, il y a une source du gouvernement du Canada sur les avantages qui redit d'une autre manière ce que tu viens de dire. Donc la biodiversité, effectivement. L'augmentation du rendement des cultures et gains économiques. La conservation du sol et l'amélioration de la qualité du sol et la séquestration du gaz carbonique atmosphérique.
Voilà.
On en a parlé un petit peu, effectivement, que c'était possible pour les agriculteurs. Tu l'as dit, l'intérêt pour un agriculteur d'avoir des haies, c'est le côté coupe-vent, le côté infiltration des sols.
Oui, mais ça peut aussi être pour les agriculteurs bio, par exemple, avoir des auxiliaires de culture qui sont vraiment tout près de ces champs.
C'est quoi un auxiliaire de culture ?
Un auxiliaire de culture, c'est par exemple, rien que par exemple une guêpe au printemps, elle va beaucoup capturer de chenilles pour nourrir ses larves. Elle a besoin de nourriture protéinée et donc elle va débarrasser le champ d'une partie des ravageurs qui seraient en train de manger la culture. Il peut y avoir des prédateurs de pucerons, il peut y avoir des oiseaux, etc. Mais ça peut aussi, la haie peut aussi amener des chauves-souris. La chauve-souris, pour se déplacer, elle a besoin de repères puisqu'elle se repère avec des ondes, en fait. Et si elle est dans une campagne où il n'y a pas d'arbres, elle n'est incapable de se repérer. Alors que s'il y a une haie, elle peut aller vraiment au cœur de la culture et elle aussi manger beaucoup de papillons nocturnes nuisibles pour les cultures. Donc l'arbre peut être vraiment une source d'auxiliaire pour la culture également.
C'est sûr que quand on rentre dans ces cycles de vie et de chaînes animales, insectes, etc., enfin, c'est passionnant et c'est sans fin.
Oui, voilà, c'est ça.
Et c'est tout ça qui est remis en place, en tout cas, à cet endroit-là.
Et même pour les agriculteurs plus conventionnels, l'arbre amène une matière qui peut fertiliser leurs champs. Il faut savoir que la plupart des champs agricoles ont beaucoup perdu de matière organique. Et certains agriculteurs, maintenant, remettent ce qu'on appelle du compost agricole. C'est du compost qui est fait avec des déchets verts, des souches d'arbres, etc., qui est composté. Et ça remet dans le champ de la matière organique qui va rester à long terme, en fait, et qui est vraiment très utile pour la cohérence de leur sol et donc la qualité de leur culture, quoi, la rétention d'eau, etc.
Wow. Comment on vous contacte et quelles sont les étapes pour mener à bien un projet de plantation ?
Alors, on nous contacte généralement par mail, hein, prenonsracine@outlook.fr. Et puis, c'est la période, en fait, où on commence à préparer les plantations de la saison suivante, puisqu'on plante toujours l'hiver, hein, de fin novembre à fin février. Et donc, on va voir la personne, voir ses besoins, puisque une haie, elle doit vraiment être adaptée à l'endroit où on la met. Hein. Est-ce que la haie aura de la place pour s'étaler ou pas ? Est-ce qu'on aura besoin qu'elle monte en hauteur ou pas ? Enfin, on a besoin de définir vraiment le projet avec la personne, voir aussi quel est le sol, pour définir quelles sont les essences qui seront dans la haie. Voilà, voir aussi le financement possible ou pas, et vraiment préparer préparer la plantation qui aura lieu l'hiver prochain avec la personne et avec éventuellement des partenaires autour. Ce qu'on aime bien, c'est associer de plus en plus des associations près du lieu ou des habitants près du lieu de la plantation. L'idée, c'est vraiment que les gens autour vont s'intéresser à la haie en venant la planter. Ça va créer un lien avec eux et la haie, ensuite, ils vont aller voir comment elle pousse. Ils vont, entre guillemets, la surveiller. Quoi. Ils vont... C'est pas une haie qu'on pourra...
C'est des veilleurs de haie.
Voilà. Elle ne pourra pas être rasée à l'épareuse 2 ans après parce qu'il y a vraiment des gens qui sont là et qui veillent sur elle quelque part. Quoi.
Des gardiens de haie. On n'en a pas parlé, mais je me demandais... Si, j'imagine qu'il y a des plantes mellifères pour les abeilles aussi.
Tout à fait. Ça peut être une haie mellifère. Ça peut être, les haies peuvent être adaptées vraiment à différents besoins. Ça peut être une haie plus pour les oiseaux... pour la nidification, il y a toutes sortes de possibilités. Ça peut être une haie fourragère aussi. Cet hiver, on a planté autour de prairies où il y a des chevaux. Et donc, tous les arbres qui ont été mis dans la haie sont bénéfiques pour les chevaux, peuvent être mangés par les chevaux. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte au moment où on plante. Quoi. Il y a certains arbres qu'il ne faut pas mettre quand il y a des chevaux. L'érable sycomore, par exemple, qui peut être très dangereux. Donc voilà. Une haie, ça peut être aussi une source de nourriture pour le bétail.
Super. Donc on vous contacte. Vous allez voir sur place, vous regardez le financement. Vous montez une équipe, j'imagine, puisque tu es la seule salariée à ce jour.
Oui, alors je suis la seule salariée, mais on est vraiment un groupe. Hein. On a un bureau de 5 personnes, un CA de 10 personnes, et puis pas mal de personnes qui gravitent autour. Et on aime bien réfléchir à plusieurs sur les projets. Hein. C'est jamais fait par moi toute seule. On continue à fonctionner comme avant. Donc c'est moi qui fais, on va dire, toute la paperasse, toutes les commandes de plans, etc. Mais par contre, le projet, si c'est un projet un peu particulier, on réunit nos antennes à plusieurs et on réfléchit à ce qu'on va mettre, etc. Quoi.
Ouais, c'est un projet collectif de toute
Exactement,
manière.
Ouais,
et tout il faut fait. Être nombreux pour arriver à répondre aussi à la demande. Un projet, je ne sais pas, sur une haie de 300 mètres, c'est ça la taille. Il faut combien de bénévoles? Ça prend combien de temps?
Alors, 300 mètres, en fait, il faut compter, généralement, c'est le samedi matin, nos plantations, et on compte
en plein hiver, avec les bonnets, tout ça.
En plein hiver, avec les bonnets, les bottes et tout. Ah, il faut un peu du courage pour venir, hein. C'est pas toujours évident, mais on est toujours content d'être là. Et on compte à peu près 15-20 plants par personne, donc 300, voilà, il faut diviser par 15-20. Et en gros, généralement, on est entre 15 et 30 par plantation.
Et comment on plante dans une terre gelée?
Par contre, on évite de planter en terre gelée. Cet hiver, on a eu 2 fois des cas un peu limites où vraiment on a très très bien protégé les plants. Parce que justement, le problème, c'est protéger les racines du gel. Donc, ce qu'on fait avant toutes nos plantations, c'est que les racines sont pralinées, c'est-à-dire trempées dans de l'eau, de l'argile, un peu de fumier de cheval si on a, de façon à ce que les racines soient protégées contre le sec et aussi contre le froid, contre l'eau chaude. Et ensuite, cet hiver, on a planté par -4. Donc, on avait une équipe de costauds avec des pioches qui ont enlevé la couche gelée au-dessus. Et dessous, la terre était praticable. Donc, ensuite, on a des gens qui ont creusé la terre et on a pu planter. Mais c'était un peu limite, c'est vrai. Mais par contre, j'y suis allée il y a 2 jours. Et la haie a vraiment super bien poussé. Ouais, donc, génial. Ça veut dire qu'on a pris toutes les bonnes précautions.
Ouais. Catherine, super. Tu disais qu'il fallait du courage pour venir. Mais je pense que ce que les auditeurs ont envie de savoir, c'est est-ce que les personnes sont satisfaites, comment elles repartent?
Tout à fait. Je dirais que les personnes, globalement, sont satisfaites. La preuve, c'est qu'elles reviennent.
Et oui.
Et voilà, ça permet de rencontrer des gens très divers, de beaucoup discuter. Ça tchatche beaucoup pendant la plantation. Hein. Donc, pour dire comment ça se passe, on arrive généralement à 9h ou 9h30. On plante. On commence toujours par bien expliquer comment on plante. C'est vraiment le plus important, que les gens sachent bien le faire. Donc, on explique bien comment on plante. Ensuite, on plante. On fait une bonne pause café brioche en milieu de matinée. Et puis, on termine vers midi, midi et demi. C'est fatigant, mais je pense que c'est une bonne fatigue. Ouais, c'est une bonne fatigue. Les gens sont contents. Et comme dit quelqu'un qui fait partie de notre équipe, le matin, avant d'y aller, il ne faut pas réfléchir.
Il faut y aller.
C'est une fois qu'on est sur place qu'on sait pourquoi.
Voilà, exactement.
Allez, ma dernière question. Et après, qu'est-ce qui se passe?
Alors après, justement, ben, au fil du temps, on se rend compte qu'après, il faut quand même un peu de suivi sur la haie, puisque ben, y a quand même des herbes qui font un peu concurrence.
Sur le début, tu veux dire ou...
Sur le début, ouais. Sur le début, ouais. Les deux premières années, surtout la première année, il faut vraiment un passage pour éviter que les arbres soient trop concurrencés par l'herbe. En cas de très grosse sécheresse, on préconise un arrosage. Normalement, il n'y en a pas besoin. Hein, on fait toujours des bons paillages. Mais vraiment, en cas de grosse sécheresse, on alerte le demandeur pour qu'il fasse un arrosage. Et puis surtout, sur 3 ans, on retourne voir la haie. On compte les plants. On voit ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Nous, ça nous permet d'évoluer, en fait, d'améliorer nos pratiques. Mmh. Et puis voilà, quoi. Et après, bah, c'est vrai qu'une haie pousse vraiment doucement. Hein. On plante des arbres tout petits. Hein, ils ont 1 ou 2 ans. Et les premières années, ils vont surtout faire des racines, ils vont surtout s'installer. Donc c'est vrai que les 2 premières années, c'est un peu décevant parce que la haie est là, mais elle est toute petite. Et puis ben, après, elle prend son essor, en fait.
Et c'est parti.
Elle prend du volume. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Catherine Valin, l'association Prenons Racine.
Et peut-être qu'il y a des événements à venir sur lesquels voilà, les personnes peuvent vous rencontrer.
Alors, ben, actuellement, on n'est plus en période de plantation. Mais on est présent sur certains événements pour présenter l'association. Donc, entre autres, on sera présent alors, le samedi 24 mai sur le Festival de la Transition qui aura lieu à Neuville-sur-Saône.
Et oui, le précédent interview était justement dédié voilà. À la coopérative Val de Saône, Fabrice Volpré. On avait
tout
parlé de
fait.
Cet événement.
D'ailleurs, j'ai oublié de le dire.
Nombreux mais on, nombreux, oui.
Ouais, on a adhéré à la coopérative, justement, bien qui sûr. Est vraiment... un très beau projet. Le samedi 7 juin, on sera au festival Éco-Solidaire de Châtillon-sur-Chalaronne. Également un très beau festival sur la transition. Et le jeudi 12 juin, en soirée, nous serons au cinéma de Villars-les-Dombes sur un ciné-débat autour des arbres et de l'agroforesterie. Voilà, et ensuite, bah, tous nos chantiers, on a quelques petits chantiers hors saison, sont annoncés sur notre site. Et pour les personnes qui sont intéressées pour nous aider, il suffit de nous envoyer un mail, on vous rajoute sur notre liste de mails, en fait, et on correspond comme ça. Hein, donc, c'est-à-dire que avant la saison des plantations, on envoie toutes nos dates et les gens s'inscrivent aux plantations où ils veulent bien participer. Voilà.
Merci, vous aviez dit que c'était surtout sur l'Ain, mais ce n'est pas que sur l'Ain.
Oui, ce n'est pas que sur l'Ain, ça peut être... Mais ça reste local, on va dire 40-45 km autour de Rérieux. Voilà.
Après, peut-être que d'autres veulent faire un Prenons Racine ailleurs.
Exactement, c'est d'ailleurs un point. On aimerait travailler avec des assos qui sont plus loin que notre domaine et sur lequel on pourrait travailler ensemble à des plantations, c'est-à-dire que c'est l'asso qui rameute des planteurs, qui anime l'action, et nous, on prévoit la partie technique avant, de façon à étendre notre action, mais sans emmener tous nos planteurs trop loin de chez nous, en fait.
C'est clair, l'appel est lancé. Merci voilà. Beaucoup.
Et j'avais vraiment l'envie de... Enfin, voilà, dire que je suis touché par la beauté de cette démarche, voilà, ta prise de conscience et comment tu as pu du coup fédérer et avec ta propre énergie construire Ex Nihilo. Tu n'étais pas toute seule, mais tu étais la locomotive.
Non, je n'étais pas toute seule et c'est ça qui a été vraiment moteur.
Bien sûr, le groupe est moteur, mais il faut une locomotive. Et effectivement, tu as fait ça et ça permet effectivement quelque chose de magnifique à la fois sur la prise de conscience, la sensibilisation et du coup dans les faits effectivement ces milliers d'arbres, 6 000 en un hiver, c'est énorme, voilà, et ça permet aussi à tout à chacun de prendre part et tu sèmes des arbres, des graines aussi dans chez chacun et chaque citoyen du Val de Saône qui prend part à ces belles dynamiques.
Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Alors on démarre la deuxième partie de l'émission. On a passé quand même un temps de fond sur l'agroforesterie, mais ça nous semblait extrêmement intéressant. Là, on va passer sur quelque chose de pratico-pratique pour les gens qui voudraient se reconvertir, et également en particulier hein, les entrepreneurs, puisque c'est notre raison d'être et, sur les statuts juridiques.
Et on a eu du coup l'élan de proposer cette, ce sujet de fond, justement quand tu nous disais, Catherine, que ta reconversion, elle s'était aussi bien opérée et que oui, c'est possible, oui, c'est souhaitable même, et qu'il y a des dispositifs pour avancer.
Oui, puis une phrase qui nous avait marqué également, c'est qu'on t'a dit qu'une association, ce n'était pas de l'entrepreneuriat, ce n'était pas une entreprise. Voilà. C'est ça. On s'inscrit en faux.
En faux, et oui. Et on expliquera pourquoi tout à l'heure.
Donc que vous soyez salarié, que vous soyez chercheur d'emploi ou toute autre personne qui souhaite se reconvertir, et en particulier donc, sur un projet de création d'activité ou d'entreprise, voilà comment quelques tips, quelques trucs et astuces pour vous guider. Tout d'abord, si vous êtes salarié, il y a un premier portail qui est intéressant, qui s'appelle Transition Pro. Alors pour les anciens, ça s'appelait le fonds GESIF. Aujourd'hui, c'est Transition Pro, qui dit que pour un projet de transition professionnelle, il y a un premier dispositif pour les salariés qui sont en CDI, en CDD intérimaire ou même intermittent du spectacle. Il y a un site, donc www.transitionpro, alors c'est TRANSITIONSPRO, alors avec le tiret ARA puisque c'est auvergne-rhône-alpes.fr. Donc il faut saisir un dossier et créer un espace personnel. C'est le dispositif projet transition professionnelle, dispositif PTP, est un dossier qui peut être financé. Et donc du coup, vous remplissez votre dossier de demande sur le site. Il sera examiné par une commission qui décide ou pas, effectivement, de la prise en charge de la demande. Un deuxième dispositif qu'on appelle le dispositif démissionnaire, il vous offre la possibilité de démissionner soit pour préparer un projet de création ou de reprise d'entreprise, soit pour suivre une formation nécessaire à votre reconversion et de percevoir l'assurance chômage. Donc c'est pareil, c'est pour les salariés du privé en CDI qui justifient d'une expérience de 5 ans chez un ou plusieurs employeurs à la date de la démission. Il s'agit de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle donc pour trouver la liste de ces personnes, qu'on appelle CEP aussi. C'est www.mon, donc mon-service-service-cep.fr. Donc la porte d'entrée à cet endroit-là, c'est cet entretien et le projet que vous allez monter avec ce conseiller en évolution professionnelle. Et en cas d'avis favorable, vous vous inscrirez à France Travail, qui ensuite va procéder à la validation de vos droits, au calcul de votre indemnisation et étudier la prise en charge de cette formation, s'il y a formation. Donc ce rendez-vous avec le conseiller, c'est la première étape pour valider votre projet, y compris quand il y a un projet de formation. Un autre dispositif que je pense vous connaissez, qui est assez connu, c'est la validation des acquis de l'expérience qui permettent de transformer une expérience en un diplôme, voilà, qui permet d'ouvrir des portes ensuite. Donc ça, c'est les dispositifs qui sont possibles pour les salariés. Il faut savoir d'ailleurs du coup, que vous pouvez tout à fait utiliser ce dispositif pour financer une formation, tant que vous êtes salarié, et ensuite revenir à votre projet et peut-être quitter l'entreprise. Il y a aussi voilà, un pas de temps à trouver à cet endroit-là. Si vous êtes demandeur d'emploi, forcément, votre porte d'entrée, c'est France Travail, www.francetravail.fr. Il faut s'inscrire, prendre un rendez-vous. Vous avez donc rendez-vous avec un conseiller qui, lui aussi, va prendre tous vos éléments, tous vos justificatifs pour calculer votre indemnisation. Et ensuite, s'assurer du suivi de la qualité, de la sécurité de votre parcours. On peut également, et c'est important de le savoir, qu'on peut s'inscrire à France Travail quand on est salarié, qu'on est déjà sur un projet de réflexion. Et puis, qu'on peut le faire aussi si on est à temps partiel, salarié ou déjà entrepreneur, en micro-entreprise ou pas, parce qu'il y a un dispositif, si vous avez des droits, de complément de votre rémunération avec l'ARE, donc l'allocation de retour à l'emploi, en plus de la rémunération que vous aurez. Si vous souhaitez créer votre activité ou votre entreprise en tant que demandeur d'emploi, une fois que votre inscription est faite, vous avez deux possibilités. Vous pouvez demander le versement de tout ou partie de vos droits à indemnisation comme un fonds de démarrage de votre entreprise ou faire le choix de rester dans une indemnisation classique en faisant connaître votre projet de création ou de reprise. Et alors, vous serez dirigé vers un conseiller spécialisé qui suit les créateurs, les porteurs de projets. Si vous souhaitez vous faire accompagner à la création d'entreprise, vous avez des dispositifs classiques. Si vous êtes commerçant, c'est la CCI. Si vous êtes artisan, c'est la CMA. Chambre des métiers et de l'agriculture. Pour les projets de l'économie sociale et solidaire, il y a un annuaire des incubateurs sur le site de l'AVISE, A-V-I-S-E, dont on mettra le lien également, dans lequel vous avez un annuaire voilà, de tous les incubateurs en fonction, enfin je dis incubateur, structure d'accompagnement en fonction de là où vous en êtes, puisque ça porte un nom différent si vous êtes en phase d'émergence. C'est-à-dire que le projet n'est pas encore mature, voire vous n'avez pas encore d'idée. Si vous êtes en incubation, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez un premier client, ou vous voulez aller chercher le premier client, et ensuite, bon, il y a l'accélération, etc. Donc, effectivement, à la CCI, il y a des conseillers, et il y a la formation 5 jours pour entreprendre. Et sur la région lyonnaise, si on fait un focus, vous avez, par exemple, Anciela, qui est une magnifique structure qui accompagne toute initiative locale, à intention
de transition, d'écologie.
Voilà, sociale et solidaire. Sociale, ouais. Vous avez aussi deux incubateurs principaux, il y en a d'autres. Ronalpia. Et puis, si vous avez un projet collectif, Alter Incube. Et on peut aussi signaler l'URSCOP, URSCOP, qui accompagne les projets collectifs qui ont une intention aussi collective, mais de se monter en SIC et en SCOP, mais voilà. On verra plus tard.
À travers Alter Incube. Voilà.
Oui, mais il y a les conseillers en SCOP aussi. certains accompagnements sont sur sélection à partir d'un dossier, où il y a un jury et il y a une sélection. Et quand il y a des financements publics, il y a toujours un nombre de places plus ou moins limité. Et d'autres ont pris la forme d'une formation action et sont finançables par... soit ce qu'on appelle l'OPCO, c'est l'organisme paritaire de formation continue, la formation professionnelle, soit le CPF, donc vos droits à formation. C'est d'ailleurs le cas de notre programme, qui d'ailleurs, petite actualité, devient aujourd'hui une formation certifiante à la création de TPE-PME. Comment crée-t-on son entreprise? Puisque une fois qu'on a fait son projet, eh bien on peut se poser la question de comment on fait pour déposer ses statuts. Qu'on soit micro-entrepreneur ou autre.
Une petite info, juste avant de passer sur cette rubrique. Vas-y. Essentielle. Dans quelques semaines, enfin très rapidement, le lundi 12 mai 2025, l'Institut Transition organise la journée de la transition professionnelle, ouais, écologique et solidaire. Et donc toute une journée, du coup, c'est sur Lyon, avec des conférences, des ateliers, et un podcast à vivre en direct, des temps de témoignage, et voilà, plein de structures dédiées à la transition professionnelle. Voilà, date à marquer dans votre agenda si effectivement la transition et la réorientation vous parle.
Save the date, le 12 mai. Donc je reviens effectivement à la création d'entreprise une fois que vous êtes prêt à créer, et ne le faites pas trop tôt. Il y a un portail unique, voilà, qui est le portail de l'INPI. Donc je remettrai pareil le lien, hein, mais c'est www.inpi.fr/guichet, donc GUICHET-unique, UNIQUE. Si, il faut tout t'épeler, c'est important, la radio il paraît. Voilà, que ce soit une micro-entreprise, l'ancien statut qu'on connaît sous le nom d'auto-entrepreneur, ou toute autre forme, c'est le même guichet. Forme juridique. Alors, c'est vrai que c'est une question, quand on vient nous voir... avec un projet de création. Les personnes nous disent quel statut juridique il faut, quelles sont les obligations fiscales, etc. Et nous, on a tendance à dire, déjà commencer à mettre la forme, l'objet, commencer à trouver aussi quels sont vos clients, ce que vous voulez faire en réalité. parce que c'est n'est qu'à ce moment-là, finalement, que vous trouverez le statut juridique adéquat pour votre structure. Les bonnes questions à se poser, c'est déjà de savoir si on veut entreprendre seul ou à plusieurs. La deuxième, ça va être de savoir si on veut séparer son patrimoine personnel de celui de son entreprise. Est-ce qu'il y a un enjeu à cet endroit-là ? Ensuite, effectivement, la question de la fiscalité, à la fois personnelle et professionnelle, quelque part, dans le sens où il y a des statuts où on peut rester salarié. Alors, c'est le statut de président salarié dans les sociétés par action simplifiée, les SAS, ou SASU quand on est tout seul, ou être travailleur non salarié. Et là, en fait, les deux, il y a quand même pas mal d'équivalences aujourd'hui dans les couvertures sociales, retraite, etc. Mais c'est quand même deux statuts assez différents. Et il y en a un où on est plutôt accompagné par les structures d'État, comme n'importe quel salarié. D'autres, où on va plutôt devoir faire des contrats spécifiques à l'extérieur. L'exonération de TVA, c'est une question quand on est micro-entrepreneur, sachant que on sait que les plafonds sont en train de baisser et on ne sait pas exactement quand ça va se passer et si ça va se passer. Mais a priori, on va descendre à du 25 000 euros, ce qui va limiter quand même pas mal cette possibilité.
Autrement dit, avec la loi finance et les enjeux d'aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus difficile de pouvoir facturer sans TVA, quand on est micro-entrepreneur, et qu'au-delà de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, c'est ce qui est prévu en juin, on ne pourra plus facturer avec de la TVA.
Sans TVA.
Sans TVA, pardon.
ensuite, et notamment quand on est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et si on a une intention, effectivement, de ce type-là, les questions de lucrativité limitée. Il y a des statuts et des gouvernances dans lesquelles on va poser de base ce genre de paramètres.
Et donc, oui, les trois piliers de l'économie sociale et solidaire, il y a effectivement figure la lucrativité limitée, comme tu le disais, et également l'objet social qui doit être d'utilité sociale. Voilà, social, en prendre dans le sens anglo-saxon du terme, donc qui inclut les enjeux environnementaux ou écologiques. Et enfin, les notions de gouvernance démocratique ou participative, et donc qui sont les paramètres que toute structure de l'économie sociale et solidaire doit avoir, du coup, et c'est même statutaire. Voilà. Et donc, la loi 2014 sur l'ESS entérine le cadre des formes juridiques qui font partie de l'économie sociale et solidaire, à savoir, en gros, les associations, les fondations, les fonds de dotation et les coopératives. Et donc, dans les coopératives, il y a beaucoup de formes différentes, dont, on va dire, deux principales dont on entend souvent parler, les SCOP et les SIC. Et donc, SIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et ces deux dernières structures juridiques sont en fait des entreprises commerciales, donc qui prennent la forme de sociétés anonymes, SA, SARL ou SAS, et qui ont en plus la couche coopérative qui, contraint ou en tout cas affirme des valeurs à travers effectivement les enjeux de gouvernance, de répartition de bénéfices. Voilà, un humain, une voix, et d'un objet social qui soit dédié effectivement sur de l'impact dans le territoire.
Peut-être un dernier mot sur les structures juridiques. Effectivement, si on est seul, on connaît plus souvent la micro-entreprise, on connaît le URL. Mais il faut aller voir aussi du côté des sociétés de portage ou des coopératives d'activité et d'entrepreneuriat. Et si on est plusieurs, les structures classiques qu'on connaît, c'est la SARL, la SA, la SAS. Oui, et d'ailleurs, en unique, ça s'appelle la SASU, quand on est sur une SAS unipersonnelle. Voilà, juste pour donner les grands statuts.
Les grands statuts, et voilà, rappeler qu'il n'y a pas de bon statut en soi. Voilà, il y a des formes juridiques qui sont adaptées au projet. Et donc, quand on veut créer, il faut être clair sur tout ce qu'on veut. Voilà, les parties prenantes, le financement, les modèles de gouvernance, les situations personnelles, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, Elisabeth. Et vous faire accompagner, du coup, pour trouver la forme qui vous convient.
Alors, quelques indications sur comment on peut se faire aider pour trouver la bonne forme juridique. Alors, les experts comptables, parce que, mine de rien, ils sont très au fait de tout ce qui se passe au niveau juridique et fiscal. Et notamment aussi l'organisation des instances et évidemment toute la partie financière. Il y a des experts fiscalistes, quand vous avez des points très précis pour la fiscalité. Vous pouvez avoir des conseils évidemment auprès des avocats spécialisés sur les formes juridiques, sur l'aide à la rédaction des statuts ou des pactes d'associés. C'est important, les pactes d'associés. Et puis vous avez pour la création des SCOP ou SIC, la CGSCOP.
La configuration générale des SCOP.
Voilà. Et vous pouvez trouver dans la maison des associations, par exemple, une aide pour créer une association. Et enfin, vous pouvez vous rapprocher des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CRES, comme porte d'entrée, effectivement, aussi pour ce genre de choses. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Merci encore une fois Catherine Valin et l'association Prenons Racine.
Merci à vous de m'avoir reçue.
C'était un grand plaisir. On retrouve toutes les informations sur la page de l'émission Courant Porteur sur Radio Calade. L'émission est disponible en podcast, comme d'habitude. Et pour la prochaine fois, nous recevons... il sera déjà dans la pièce, hein, puisque c'est Ludovic, le cofondateur de Son Essence, à mes côtés, pour son parcours. Et également, parce que dans son parcours, il y a de l'habitat participatif, il y a beaucoup d'entrepreneuriat collectif. Et donc, il va nous parler plus particulièrement des gouvernances partagées ou participatives.
Avec grand plaisir.
À tout bientôt.
À tout bientôt. Merci Catherine, merci Elisabeth.
Merci.
Au revoir. Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr, SAONE2SENCE.